les podcasts Ludomag.
Bienvenue dans l'émission Les podcasts Ludomag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yannick Arfenel, co-président de EdTech France et animateur de plusieurs associations communautés autour du secteur du e-learning et des EdTech. Alors avant de développer notre sujet aujourd'hui, découvrons qui est Yannick Arfenel.
Je suis d'abord, par définition, un slasher et je suis un petit peu en dehors de la génération parce que je suis à mon 14e métier. Donc, je suis ce que seront tous les jeunes qui aujourd'hui rentrent dans les systèmes de formation et d'éducation. Ils auront beaucoup, beaucoup de métiers et moi, j'étais un petit peu en avance, psychomotricien à la base et depuis maintenant plus de 25 ans en train d'innover dans la formation, formateur au départ d'ingénieurs en informatique et me replongeant à ce moment-là sur cette question de me dire, plutôt que de former des ingénieurs à l'informatique, qu'est-ce que pour moi, formateur, l'informatique va changer ? J'ai inversé le paradigme et depuis, ça ne m'a pas quitté et j'ai eu l'occasion de prendre beaucoup, beaucoup de responsabilités entrepreneuriales, d'aller être dans cette aventure d'Open Classrooms au moment de la création d'Open Classrooms que certainement les auditeurs connaissent parce que c'est un incontournable. En 2013, c'était le site du zéro, ça a changé de nom, c'est devenu Open Classrooms et j'en étais le directeur pédagogique éditorial pour pouvoir créer les partenariats avec Sciences Po, avec Polytechnique, avec toutes sortes de grands enseignants experts et monter le studio, monter les équipes d'ingénieurs pédagogiques et chefs de projet pour pouvoir produire les 130 premiers parcours de formation d'Open Classrooms avant d'être allé à la MAIF, monter une start-up en intrapreneuriat, Starlings, pour pouvoir, avec Sciences Po Paris, créer des parcours de formation qui réunissaient l'ensemble de ce qui pour moi était important. C'est-à-dire, on va en revenir, tout ce qui permet à du digital learning d'être absolument efficace. Et maintenant, depuis 2 ans, j'ai repris ma liberté et j'accompagne toutes sortes d'organisations pour amener et construire ma stratégie de digital learning, que ce soit des universités, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations ou des startups qui veulent avoir une vision et une légitimité sur le marché de la formation, de l'éducation, en bénéficiant de cette expertise que je peux apporter.
Alors, au vu de votre expérience dans le e-learning, profitons-en pour faire un point historique sur les essentiels de la formation à distance et des différentes formes d'apprentissage en ligne. Le secteur a-t-il vraiment évolué, Yannick Arfenel ? La technologie a-t-elle apporté un véritable changement ou est-ce que ce ne sont finalement les bonnes vieilles méthodes ou recettes qui font toujours la qualité de ce qui est proposé aujourd'hui ?
Ouais, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est revenir encore plus à la base. Avant de parler du e-learning, on parlait de la FOAD. Et moi, quand j'ai commencé, c'était la formation ouverte à distance. Et lorsque l'on mettait en place ces dispositifs, lorsque l'on accompagnait toutes sortes d'organisations à ce type de dispositifs, les questions qui étaient posées étaient centrales, à savoir l'auto-formation, à savoir l'accompagnement, à savoir quels vont être les rôles de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Les formateurs disaient « Oh là, on va nous piquer le travail parce qu'on va mettre en place des classeurs d'auto-formation, on va nous piquer notre travail parce qu'on ne va plus rien avoir à faire et qu'on aura extrait notre savoir et nous n'aurons plus de rôle. » Et l'autre question qui se posait, c'était comment faire pour que les gens qui viennent dans les centres de ressources pour se former aient une motivation et arrivent à aller jusqu'au bout de leur formation. Aujourd'hui, 25 ou 30 ans après, les questions qui se posent sont strictement les mêmes. Et donc, ce n'est pas une question de techno, c'est vraiment une question de posture. Qui fait quoi ? Comment est-ce que l'on va engager des personnes à aller se former ? Et est-ce que l'on croit qu'ils sont capables de se former tout seuls ? Moi, mon point de vue, c'est que, évidemment, quels que soient les bénéfices extraordinaires apportés par la technologie. On va en parler par la réalité virtuelle, par l'intelligence artificielle, par exemple, par les connaissances apportées par les neurosciences appliquées dans l'éducation. Quels que soient ces apports-là, la place de l'humain est absolument cruciale et on n'est pas placé face à un choix entre digital ou humain, digital ou présentiel, mais en prenant le meilleur du digital et le meilleur de l'humain qui est incontournable.
Alors, pour paraphraser Confucius, nous allons évoquer le juste milieu, ni trop en distanciel, ni trop en présentiel. Cette approche, cette doctrine, s'applique-t-elle à tous les niveaux de formation, aussi bien dans le supérieur que dans la formation continue et la formation initiale, Yannick Raffenel ?
C'est vrai que j'interviens essentiellement sur l'enseignement supérieur et sur la formation professionnelle. Mais par contre, j'aime toujours à me référer d'une personne qui est pour moi mon maître. J'ai cette chance d'avoir grandi en passant dans des écoles qui appliquaient cette pédagogie. Et pour moi, tout à la base est une question de pédagogie. Je veux parler de Célestin Freinet. Il y a un siècle, puisque c'est dans les années 20, Célestin Freinet inventait la pédagogie active, la pédagogie par projet, et illustrait le fait que pour apprendre, on apprend avec et par les autres, que le peer-to-peer, c'est-à-dire apprendre avec les autres et apprendre aux autres, c'est un moteur fondamental de l'apprentissage qui permet de se mettre en position active et non pas simplement passive de celui qui va recevoir tel un réceptacle le discours du sachant. Cette pédagogie par projet est aujourd'hui, en 2021, au cœur de la nécessaire transformation de tous les enseignements. En mars, puisque ça fait exactement aujourd'hui un an que démarrait le confinement, nous avions un discours porté par les autorités de ce pays qui disait « il y a un défi à réussir, il faut réussir à garantir la continuité pédagogique ». Derrière ce mot, c'est une véritable catastrophe qui est arrivée dans tous les dispositifs, que ce soit d'enseignement, d'enseignement sup et de formation pro. On s'est dit, ce que l'on faisait en face-à-face pédagogique, c'est-à-dire face à une classe, à un groupe, on va le faire maintenant en mettant un média qui va être la classe virtuelle, qui va être le Zoom, ce que l'on veut, peu importe, et on va continuer à distribuer son contenu comme ça à distance. On va régler la question de la distance par l'outil qui est la classe virtuelle. Et on a fait subir à toute une génération, à de personnes, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation, le pire du digital learning, c'est-à-dire se retrouver seul, abandonné, devant un écran, avec quelqu'un qui nous parle. Ça, c'était ce qu'il fallait absolument éviter, mais comme on n'était pas prêt, c'était le seul moyen de pouvoir faire que le système continue à fonctionner. Qu'est-ce que nous dit Célestin Freinet ? Il nous dit que seuls 5 à 6% de personnes de la population est capable d'apprendre seul. Et ce n'est pas une histoire d'Internet ou d'outils, c'était valable déjà avec les livres. Et ça, quand j'étais à Open Classrooms, on a constaté la même chose. Quelle que soit la qualité des MOOC qui étaient faits, on n'avait que 5 à 6% de personnes qui allaient jusqu'au bout si on les abandonnait. Que si on voulait, par contre, que les personnes s'engagent, il fallait qu'il y ait tout un accompagnement humain. Il fallait qu'il y ait une pédagogie par projet. Il fallait que l'effort soit porté non plus sur la transmission du contenu, mais sur ce qui est au cœur du métier de l'enseignant et du pédagogue, à savoir de l'ingénierie pédagogique, les activités pédagogiques. Car ce qui importe, c'est ce que l'on va proposer aux élèves, aux apprenants de faire en leur mettant à disposition des contenus, des savoirs, sous toutes les formes possibles que peut nous offrir le digital. Et cette mise en avant de la pédagogie et cette rupture avec une pédagogie active, c'est vraiment le challenge qui attend aujourd'hui tous les enseignants, tous les formateurs, quel que soit le niveau. Et là, c'est valable aussi bien sur du primaire que sur de l'enseignement sup ou de la formation pro.
Au-delà de ce challenge que vous nous avez explicité, Yannick Graffenel, que peut-on attendre des EdTech? Quelles technologies peuvent faire évoluer les pratiques actuelles et quels apports de la recherche permettront, à votre avis, une évolution significative des solutions ou des services à destination de la formation, y compris quels apports peut-on attendre de l'international pour développer ces services ou ces solutions?
Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a des apports techniques et technologiques qui sont vraiment très, très intéressants au travers de tout ce qui est créé comme innovation et porté à la fois par des startups EdTech, mais aussi pour beaucoup en relation avec des laboratoires de recherche. On a un domaine, par exemple, qui me tient à cœur, puisque à l'origine, je suis psychomotricien, et que cette prise en compte de l'homme dans sa globalité, dans son altérité, m'intéresse beaucoup. Nous avons énormément de publics qui, par définition, étant déjà souvent en difficulté dans des situations de formation en face-à-face traditionnelles, sont encore plus rejetés de ce que l'on pourrait appeler les usages des EdTech. Or, beaucoup d'entreprises sont en train de se développer pour prendre en compte de manière tout à fait particulière des publics neuroatypiques, des enfants et adultes dyspraxiques. Je pense par exemple à deux entreprises, en plus sur le Grand Ouest, secteur où j'interviens beaucoup et où je vis, Learn and Go à Rennes, ou alors Mobidis à Nantes, qui travaillent de manière tout à fait particulière sur les enfants dyspraxiques et qui arrivent au travers de leurs outils à donner le chaînon manquant pour les enseignants, pour les familles, afin d'aller accompagner et d'aider, grâce aux bénéfices apportés par la techno, ces publics qui, a priori, sont totalement réfractaires à énormément des usages des outils EdTech. Donc ça, c'est par exemple une des pistes, et ça se fait réellement en collaboration entre des labos de recherche, des universités et ces startups. On a d'autres secteurs dans lesquels les choses bougent de manière tout à fait intéressante. C'est que au travers des outils tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui pour l'instant reste très confidentiel, on voit des applications qui permettent à des enseignants d'aller faire vivre des situations à des groupes classes en pouvant, dans des domaines qui, là encore une fois, sont souvent non pas mis de côté, mais jamais prioritaires, par exemple dans la formation dans le monde du bâtiment, des CFA du bâtiment, où la question de la projection dans un bâtiment devient au cœur même de tous les métiers, que l'on soit maçon, électricien ou architecte, être capable de se projeter est fondamental. Eh bien, des CFA sont en train de s'équiper et permettent justement à ces jeunes d'aller bénéficier du meilleur de l'approche pédagogique et technologique. Bien entendu, c'est accompagné, encore une fois. C'est pas, on n'a pas distribué les masques et les casques, vous vous débrouillez maintenant dans votre coin. C'est comment l'enseignant, le pédagogue va utiliser ces outils pour aller beaucoup plus loin en termes d'objectifs pédagogiques, en faisant vivre des choses avec cette immersion, avec cet impact émotionnel et physiologique que vont vivre les apprenants, qui vont leur permettre d'apprendre beaucoup plus vite, beaucoup mieux que sans l'usage de cette techno. Donc ça, juste au travers de ces deux petits exemples, je veux illustrer le fait que ça bouge. Pas assez vite, évidemment, avec des problèmes logistiques, avec des problèmes techniques, avec des problèmes financiers, parce que, évidemment, et dans les plans qui sont encore relancés, on va toujours financer du matériel, alors que la question, elle est humaine, elle est au travers de comment est-ce que l'on accompagne les enseignants, les formateurs à s'approprier ces technologies, à comprendre les bénéfices et à changer leurs pratiques pour pouvoir évoluer dans leur méthode pédagogique. Et ça, c'est un des enjeux, moi, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons monté, il y a maintenant 6 ans, le Learning Show à Rennes, qui est un événement dans lequel on a choisi, au travers d'un constat qui était que les enseignants du secondaire, du primaire, de l'enseignement sup, les formateurs, les responsables de formation, les responsables d'organismes de formation, les start-upers et tech, tous ces gens-là ne se rencontrent jamais. Et on leur propose quoi? On leur propose des salons dans lesquels il s'agit d'aller vendre et faire du marketing autour de produits. On leur propose des conférences de type TEDx et autres dans lesquels on est juste spectateur et que ce que l'on voulait, c'est au contraire prendre la richesse de tous ces publics en les faisant sortir des silos pour leur faire vivre des situations d'échange de pratiques et d'idéation, d'inspiration. Et nous avons inventé ce format avec des ateliers immersifs, expérientiels. Plein d'ateliers, une 60aine d'ateliers qui durent 1 heure et quart dans lesquels on va rencontrer ses pairs, être et participer, vivre quelque chose dans lequel on va faire des échanges de pratiques. Ça, eh bien, depuis 6 ans, ça se développe. Le prochain aura lieu le 11 et 12 octobre à Rennes. Pourquoi Rennes? Parce que si on veut pouvoir être disponible et vivre comme ça, plonger dans un écosystème, il faut être sorti de son univers. Et pour tous les Parisiens, bah, Rennes, c'est à 1 heure et quart, à 1 heure et demie de Rennes, de Paris en TGV. Et ça permet d'avoir cette disponibilité.
On n'a pas trop parlé d'international, même si Rennes, c'est à 1 heure et demie de Paris. Hein, donc c'est clair que c'est quand même très loin pour un Parisien. Mais c'est tout à fait près pour un Pyrénéen comme je suis, hein, donc il n'y a pas de souci. Petite vision internationale avant de clôturer notre petite rencontre.
Tout à fait. Il y a un enjeu extraordinaire autour de la high-tech et de la francophonie. Nous avons tous en tête que d'ici 15 ans, tous les chiffres et toutes les projections montrent que le français sera la première langue parlée au monde. Nous avons sur l'Afrique et sur le Maghreb une responsabilité absolument phénoménale d'aider les startups qui sont déjà en place et qui travaillent, et les établissements d'enseignement, quels qu'ils soient sur ce continent, pour réussir à développer des approches à la fois technico et pédagogiques qui permettent de s'adapter aux contraintes des populations et des apprenants sur place. On sait que sur place, le seul device, le seul moyen d'accéder à la formation, c'est le téléphone. Et de ce fait, on a à reconstruire tous les parcours et les réflexes que l'on peut avoir pour aller déployer des dispositifs, pour aller former en France, pour pouvoir aller inventer autre chose. Là-dessus, nous sommes en train de travailler au niveau des Tech France sur le sommet de la francophonie qui aura lieu le 20 et 21 novembre à Djerba pour faire de ce moment, qui est un moment très institutionnel, une plateforme de la francophonie et de la high-tech pour rassembler le maximum d'organisations, d'entreprises, pour faire des retours d'expérience, pour faire des mises en commun avec l'aide de Business France, pour que les entreprises puissent aussi aider, encore une fois, et non pas venir remplacer, pas venir suppléer, mais venir aider tous les talents qui sont en Afrique et qui sont en train d'inventer des choses parce qu'eux connaissent très bien leurs contraintes et connaissent très bien leur public.
C'était un entretien avec Yannick Raffanel, coprésident de EdTech France, où vous l'avez bien remarqué, nous avons parlé autant d'ingénierie pédagogique que de technologie éducative. Cet entretien se tient dans le cadre de la série Les podcasts de Ludomag.
c'était les podcasts de Ludomag.